21h passées de quelques secondes sur votre radio locale sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre. C'est à une formidable et passionnante aventure en terre polaire que nous vous convions ce soir avec notre invitée. Elle est originaire du Haut-Doubs, réside non loin de Besançon où elle travaille et par deux fois elle s'est rendue au Spitsberg, île principale du Svalbard, territoire sous gouvernance de la Norvège qui est la dernière terre avant le pôle Nord par 78 degrés de latitude nord. Une seule ville d'environ plus de 2000 habitants, essentiellement occupée par les mineurs qui exploitent le charbon sur ce territoire très peu peuplé. Le Spitsberg est classé réserve naturelle et c'est un fabuleux terrain d'observation lorsqu'on aime la photographie, la nature et la faune. C'est une nature sauvage à grande échelle sur une île immense avec une météo capricieuse et des conditions de voyage pas toujours faciles car les routes y sont quasiment inexistantes. Aurore Mamet, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Merci Aurore d'être devant le micro de Wagon Livre. Pardon pour cette introduction un peu longue, mais je souhaitais que nos auditrices et auditeurs sachent que ce soir nous partions, grâce à vous, à l'aventure vers les terres polaires. Alors par deux fois, vous vous êtes rendu au Spitsberg et vous avez fait paraître un récit de voyage aux éditions Coxigru, récit de voyage que l'on trouve en librairie sous le titre « Le parallèle de l'ours ». Livre, d'ailleurs, qui a été récompensé en 2016 par le prix de littérature du Lions Club Centre-Est. Aurore, est-ce que, en présentation, j'ai annoncé en tout cas l'essentiel ?
Ah, écoutez, c'était parfait.
Merci, Aurore. Alors, le point de départ, vous le dites, une enfance dans le Haut-Doubs, dans les montagnes franc-comtoises, une enfance bercée par les récits de Jack London et puis plus tard par ceux de Jim Harrison. Vous avez toujours été attiré par les contrées polaires. À quoi cela tient-il ?
Alors en fait, pas du tout. J'ai toujours été attiré par contre par les espaces sauvages. Et pendant longtemps, les espaces sauvages, dans ma tête, c'était l'Afrique. C'était les animaux, c'était ce qu'on voyait à la télé, les lions, la savane. Et en 2004, j'ai réalisé mon premier rêve d'enfant. Avec mon mari, nous sommes partis à Etosha, en Namibie. C'est un pays fabuleux qui compte 4 habitants au kilomètre carré. Donc pour moi, c'est à peu près synonyme de paradis. Et l'émotion que j'ai ressentie en entrant dans le parc, que j'avais vu maintes et maintes fois à la télé, et je me suis dit, cette fois, j'y suis. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Et puis après, au fur et à mesure des années, en prenant un petit peu conscience de ce qui se passe dans le monde, en étant plus sensibilisée à la pollution, étant passée d'une vie à la campagne à une vie à la ville, il y a des choses qui m'ont choquée, il y a des choses que j'ai ressenties, dont je n'avais pas connaissance avant. Et je me suis dit, peut-être que le luxe aujourd'hui, c'est plus d'aller voir les lions en Afrique, c'est d'aller voir les ours au pôle Nord, tant qu'il y en a encore.
Alors, au moment où vous allez quitter Besançon pour débuter ce périple vers les terres polaires, c'est au mois de juin, donc il fait des températures, je ne sais pas, plus de 25 degrés, 30 degrés.
Oui, voilà, c'est l'été à Besançon, un petit peu plus précoce que dans le Haut-Doubs, donc des températures très clémentes.
Alors bien sûr, je vois devant moi une jeune femme très dynamique, très sûre d'elle, qui aussi est une éducatrice sportive dans les arts martiaux, il faut le dire.
Oui, voilà, j'ai 3 métiers et le métier numéro 2 sur ma feuille d'impôt, c'est éducateur sportif en arts martiaux.
Aurore Mamet, comment se prépare-t-on à une expédition polaire ? Conditions physiques, entraînement, démarches administratives, préparation psychologique, on se documente, on ne part pas comme ça à l'improviste.
Non, c'est pas possible du tout. Il faut savoir que ces expéditions, je les ai faites la première en 2006, donc il y a un petit peu plus de 10 ans, et les conditions d'accès au Spitsberg n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut trouver des voyages un peu clés en main auprès d'agences de trek, ce qui n'était pas forcément le cas, ou disons, c'était pas aussi développé il y a 10 ans. Et donc ça demande un petit peu plus de préparation que quand on prend un voyage clé en main. Là, l'idée, c'était vraiment de l'aventure, même si ça reste encadré par un guide local, même si ça reste un petit peu balisé. Il y avait pas mal de préparation. Au niveau physique, il n'y a pas de souci parce que je suis très, très sportive et avec une bonne condition physique. J'ai l'habitude des randonnées en montagne, en altitude. Donc voilà, le Spitsberg, c'est un petit peu la haute montagne au niveau zéro, au niveau de la mer.
En termes de visa, on rentre aisément sur cette terre du Spitsberg qui est sous gouvernance de la Norvège.
Oui, il n'y a pas besoin de visa.
Préparation médicale.
Alors ça a tout facile, étant donné que je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital de Besançon. La trousse à pharmacie, elle se fait très facilement avec beaucoup de logique. Et vraiment, voilà, on sait qu'on est dans des conditions où on va être un petit peu isolé. Donc moi, j'avais pris de quoi faire des sutures, de quoi faire une petite anesthésie locale si jamais il y avait une plaie à parer quelque chose, de quoi faire une petite attelle rapide en cas d'entorse ou de fracture en attendant les secours. Très facile.
Aurore, même si... lors des expéditions polaires, on se nourrit plutôt de manière liquide. Il faut tout de même avoir une bonne dentition. Vérifier l'état de ses dents, c'est important.
Oui, il y a un petit passage chez le dentiste et puis un petit passage chez le médecin. En fait, les choses qu'on redoute quand on part en expédition comme ça, c'est par exemple l'appendicite. L'appendicite qui dégénère très vite en péritonite. Donc, ils font un rapatriement assez rapide et ce n'est pas prévisible. Alors, en fait, tout ce qui est prévisible, on le prévoit avant. Il y a un petit check-up. Voilà. Enfin, rien de compliqué, mais disons de la précaution, être sûr qu'on part en sachant où on en est.
Bien sûr, on imagine la part de curiosité intellectuelle à aller découvrir cette terre lointaine, quasiment. C'est la dernière terre avant le pôle Nord. Hein.
Il faut
regarder sur un atlas. J'ai ouvert un atlas. Bon, il y a une petite carte au début de votre livre, mais sur un planisphère, effectivement, on se rend compte que cette terre est assez grande. C'est pas une minuscule île.
Non, c'est tout un archipel, effectivement.
Et effectivement, c'est vraiment tout au nord. Et on s'est dit, Aurore Mamet. A fait le tour de cet archipel en kayak.
Alors,
et à
pas
pied.
Tout le tour, parce pas que ça représente tour. Des milliers de kilomètres. Le tour d'un petit bout, on va dire.
Ce qui est déjà extrêmement dangereux.
Oui,
tout
la
même.
Suite est prévue au programme.
Vous écrivez « Une terre a toujours à nous apprendre ».
Oui, c'est la seule chose qui nous ancre au véritable sens de la vie. À mon sens, quand on voit, je sais pas comment vous expliquer, la mentalité des gens, ça diffère beaucoup suivant les endroits où ils vivent. Entre gens de montagne, on se comprend. Par exemple, moi, je suis du Haut-Doubs, terre de montagne. Je m'entends très bien avec un collègue de boulot qui est d'Auvergne. C'est des montagnes aussi. Et bizarrement, très bien avec les Bretons. Les Bretons, c'est des espèces de montagnards du bord de mer. Et on a beaucoup plus de mal à comprendre les gens des plaines. Et dit comme ça, c'est très basique, mais en fait, on se rend compte au niveau des relations, au niveau des amis, au niveau du travail, les gens avec qui ça colle, les gens avec qui ça ne colle pas, et bien, il y a de ça. Et notre terre, je pense qu'elle nous façonne, quoi qu'on en dise.
Alors, parlons de ce territoire sous gouvernance de la Norvège, le Spitsberg. C'est le nom de l'île principale de l'archipel du Svalbard.
Oui, voilà,
alors,
c'est ça.
Aurore, est-ce que je peux vous laisser nous faire un petit cours de géographie, géologie ? Vous êtes aussi très passionné par la géologie.
Ah, j'ai un antécédent de 2 ans de fac de géologie avant de trouver une réorientation professionnelle, faute de débouchés. Oui, c'est un archipel. En fait, il y a l'île principale, donc ce que vous avez dit, le Spitsberg, qui est entouré de nombreuses autres îles. Il y a la plus au nord, c'est l'île de Mofen, là où on trouve des morses. Il y a l'île des ours, qui est plus au sud, et Joya, qui est un peu plus grande, qui est voilà, un petit peu visitée aussi. Et tout cet archipel forme le Svalbard, qui a reçu la visite des Vikings par le passé, mais sa particularité, c'est qu'il n'y a aucune population autochtone. Souvent, les gens me demandent par rapport au Groenland, où on voit les Inuits, où il y a beaucoup de villages, où il y a un réseau, le Svalbard, ce n'est pas ça du tout. Personne n'y habite de façon permanente, sauf voilà, depuis le traité, il y a des Norvégiens, des Russes, des Français.
Et donc, la population qui se trouve dans la ville principale qui s'appelle Longyearbyen, c'est ça ?
Longyearbyen, oui.
Là, on trouve essentiellement des mineurs. C'est des personnes qui sont 3 semaines dans les mines, 1 semaine retournent chez eux, soit en Norvège, donc soit en Russie.
En Russie, voilà. Et puis après, il y a tous les gens qui habitent pour les commerces, le service. Il y a un coiffeur, il y a même une bibliothèque, il y a un supermarché, il y a le marchand de vin du magasin d'État. Il y a voilà, tout ce qui est service. Il y a évidemment le gouverneur, il y a une équipe, il y a une petite police.
Alors, voilà. Il y a aussi un cimetière.
Il y a aussi un cimetière,
grâce à vous, on déambule un peu dans ce cimetière de ce village. Presque, c'est l'unique ville du Spitsberg ? Ou il y a d'autres ?
Non, c'est la seule ville. Après, il y a des communautés. Il y a New Alesund, qui a une base scientifique. avec essentiellement des Français. Et puis il y a Barentsbourg, qui est, alors oui, on peut dire une ancienne ville minière, qui est... Il laisse une population sur place, c'est un petit peu délabré. Et donc là, c'est sous gouvernance russe, qui, voilà, qui veut garder un pied-à-terre au Svalbard pour des raisons politiques. C'est très, très peu peuplé. Et puis celle qui est connue, qu'on voit par exemple dans des reportages à la télé, c'est la fameuse Pyramiden, qui est une ville qui a été complètement abandonnée, qui est en ruine. C'est une ville fantôme, c'est très impressionnant, avec des grands bâtiments à la russe, vides.
C'est Aurore Mamet qui nous accompagne ce soir dans Wagon Livre. Elle signe aux éditions Coxigru un récit de voyage, un journal de voyage qui a pour titre Le parallèle de l'ours et qui a obtenu le prix de littérature du Lions Club Centre-Est l'an dernier en 2016. On marque une première pause musicale et on se retrouve avec notre invité, bien sûr, dans une poignée de minutes, toujours sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Une retraite hors du monde, c'est ce que notre invitée Aurore Mamet, auteure du Parallèle de l'ours aux éditions Coxigru, a connu à deux reprises au Spitsberg, île principale du Svalbard, possession norvégienne, dernière terre avant le pôle Nord. Et nous avons le plaisir de l'avoir ce soir devant notre micro. Avant la pause musicale, Aurore, nous parlions de cette principale localité sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, donc au Spitsberg, cette ville de Longyearbyen. Nous parlions du cimetière. Alors, vous vous arrêtez un petit instant au cours de votre promenade et dans votre journal de voyage, vous nous faites pénétrer dans ce cimetière où se trouvent surtout des croix très anciennes, plutôt des années 20. Aujourd'hui, on ne peut plus être enterré sur place.
Non, c'est une idée rigolote. en fait, on ne peut plus naître au Spitzberg et on ne peut plus mourir au Spitzberg. C'est interdit. C'est une terre qui est... où on ne fait que passer.
Alors, il y a un épisode absolument formidable. C'est que au Spitzberg, et même dans la rue, on se promène toujours avec son fusil de chasse à l'épaule. Enfin, son fusil, c'est pas un fusil de chasse, c'est un fusil pour se protéger contre une éventuelle attaque d'ours. Car l'ours, la présence de l'ours plane de manière étrange, inquiétante et emblématique aussi.
Voilà, exactement. Quand on va au Spitzberg, on espère un petit peu voir l'ours, en même temps on craint un petit peu. Et en fait, qu'on le voit ou qu'on le voit pas, peu importe, parce que sa présence est là toujours. Et c'est très rigolo, en fait, les gens, ils ont leur sac à main et leur fusil en bandoulière sur l'épaule. Ça leur pose pas de problème, ils discutent. Donc nous, quand on arrive, on se dit « waouh ». Et une petite anecdote vraiment marrante, c'est quand on arrive dans le bâtiment qui abrite la poste et la banque. C'est la même entrée. À droite, il y a la poste. Donc, on va tous acheter des timbres pour nos cartes postales pour envoyer à la famille. Et à gauche, c'est la banque. Et il y a un énorme panneau qui représente un fusil et un pistolet barré. Et il y a un râtelier pour poser son fusil avant d'entrer dans la banque. Et ça fait très Far West, alors qu'on est au pôle Nord. Et c'est vraiment très, très spécial.
Autre surprise, Aurore Mamet, c'est aussi dans les mœurs scandinaves. On ne rentre pas avec ses bottes pleines de terre, pleines de cailloux sous la semelle. Respect, on ôte ses bottes que l'on met dans des casiers et on emprunte des petits chaussons pour aller faire ses courses et ne pas abîmer le parquet ou le sol de la boutique.
Exactement, on a l'impression que les Français sont très raffinés, très civilisés. Et quand on arrive là-bas, pour reprendre une expression franc-comtoise, on a l'impression d'être des gros beutiaux. Parce qu'effectivement, dans les magasins, même le supermarché, on enlève ses chaussures et on prend. Donc il y a des chaussons, il y a des crocs, et tout le monde fait ses courses en poussant le caddie en chaussettes ou en crocs. Et finalement, c'est très cosy et c'est très apaisant.
Un petit mot sur le petit déjeuner à la norvégienne. Le petit déjeuner à la norvégienne, fromage, pommes de terre et poisson, ça. Là, vous en avez un peu profité avant de vous contenter de tout ce qui était nourriture lyophilisée.
Voilà, oui, c'est des petits déjeuners solides à la norvégienne, sachant les journées qui nous attendent derrière.
Alors, parlons de l'équipe de l'expédition, parlons de vos compagnons. Vous étiez 6.
Alors, pas tout à fait, c'est ce que j'explique dans le livre. Dans le livre, c'est des personnages inspirés, des vrais personnages qui m'ont accompagné, mais voilà, je ne voulais pas mettre les vrais gens. Déjà, je n'avais pas forcément leur accord. Et puis, pour les besoins de l'histoire, on a parfois besoin de leur faire dire un truc ou un autre qui n'aurait pas été la stricte vérité. Et voilà.
La première fois, la plus fictive.
Voilà, c'est juste, c'est pour ça que ce n'est pas un récit de voyage technique. C'est vraiment un roman d'aventure. C'est à peine romancé sur les dialogues ou ces choses-là. Mais tout est vrai. Et là-dessus, j'insiste, parce que quand on écrit, on a envie d'inventer un petit truc mieux. Et je me suis dit non, je m'en tiens à la stricte vérité.
Et Aurore, les personnes qui vous ont accompagné dans ce périple en terre polaire, c'était des Français ou vous étiez avec d'autres personnes venant d'autres nationalités, d'autres horizons?
Non, là, c'était une expédition qui avait été montée depuis la France. Donc, il y avait des Français. En 2006, il y avait un père et son fils qui étaient Suisses, qui avait rejoint l'expédition. Là, c'était une expédition francophone. Et le guide sur place était francophone également. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Je suis partie dans les Lofoten. On était 2 sur 12 à parler français. Il y avait toutes les nationalités.
Un petit mot sur celui qui se prénomme Marcus dans ce récit de voyage, qui est donc votre guide, mais qui est inspiré de celui qui vous a vraiment accompagné.
Exactement.
Qui veillait sur vous, sorte d'ange gardien très professionnel, et qui vous rappelait qu'il fallait être particulièrement vigilant.
Oui, paradoxalement, on se dit qu'en pleine nature, on trouve beaucoup de liberté. Et on se rend compte au quotidien, quand on est en expédition, quand on subit la météo, quand on subit l'emploi du temps qui n'est pas forcément celui qu'on avait prévu, que cette liberté, elle est corrélée à beaucoup de rigueur et beaucoup de contraintes qu'on ne voit pas. Notamment la façon de planter les tentes, c'est pas du tout comme au camping du cul de la lune à Morteau. On se met pas où on veut, il y a une logique, éloigner tout ce qui est appétant pour les ours, c'est-à-dire toute la nourriture, même les cosmétiques, après on en a pas beaucoup, mais disons un petit peu de crème hydratante, même le baume pour les lèvres, ça doit être à entre 25 et 50 mètres de l'endroit où on dort. Il faut s'astreindre à une certaine rigueur au niveau des vêtements, Faire attention de ne pas les mouiller parce que ça sèche très difficilement avec le climat. C'est un climat océanique et montagnard en même temps. Donc il fait très froid, très humide, il y a souvent du brouillard, beaucoup d'ondées. Donc voilà. Et puis au niveau des comportements, ce que je disais tout à l'heure, si jamais on se casse une jambe, le guide nous a quand même bien expliqué que le temps qu'ils prennent le téléphone Iridium, qu'ils appellent Longyearbyen, qu'un bateau soit disponible pour venir nous chercher, qu'effectivement ils fassent le trajet suivant la météo pour venir nous chercher, puis le trajet retour à Longyearbyen, puis les avions pour le continent, donc Tromsø au nord de la Norvège, il y a un avion le mardi, un avion le vendredi. Il peut se passer entre le moment où on se casse une jambe et le moment où enfin on arrive dans un bloc opératoire, il peut y avoir quasiment une semaine. Donc on est très prudent, on joue pas du tout les casse-coups ni rien du tout, parce que les conséquences derrière ne sont pas les mêmes.
Il y a un épisode tragi-comique, c'est celui où vous allez faire, vous le dites, un petit pipi, donc vous vous éloignez du campement et là il vous arrive une aventure très surprenante qui... Ça dépend de qui on rencontre. Avec qui allez-vous vous trouver mes années ?
Haha, mystère. Non, quand on, par exemple, dans les contraintes, effectivement, quand on va faire pipi, il faut le dire aux autres. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un s'éloigne sans surveillance. Il y a toujours cette idée de l'ours qui plane. Et les ours, on se dit, c'est un gros animal, on va forcément le voir arriver. Et en fait, pas du tout. Il y a des reliefs très accidentés. Les ours, ils savent s'aplatir. Et il faut aussi voir, il y a beaucoup de plaques de neige. Donc entre une plaque de neige un peu irrégulière et puis un ours un petit peu aplati derrière un rocher qui ne bouge pas. Voilà. Donc en fait, quand on va faire pipi, oui, il faut ameuter tout le monde. On ne peut pas y aller discrètement. Et donc, pour en revenir au passage que vous citez, effectivement, il y avait un gros rocher qui avait l'air parfait pour se planquer un tout petit peu pour aller faire pipi derrière. Et en faisant le tour du rocher, donc moi, j'étais perdue dans mes pensées, je suis tombée nez à nez, mais vraiment nez à nez, avec un renne qui était hors de son troupeau, parce que vraiment, on n'en a pas vu, qui lui aussi était perdu dans ses pensées. Et on s'est, pour ainsi dire, rentré dedans. Et c'était très comique et très touchant. Et le guide ne l'a pas du tout vu sous cet œil-là quand je suis rentrée toute contente en disant « Ah, j'ai croisé un renne !» Parce que lui, voilà, si ça avait été un ours, si ça avait été un renne blessé ou quelque chose, ça aurait pu être vraiment dramatique.
En tout cas, le renne est un animal extrêmement émouvant. Vous nous le rendez extrêmement émouvant et sympathique. D'ailleurs, il est sur la couverture de votre parallèle de l'ours aux éditions Coxigru.
Oui, ça c'est le choix de l'éditeur. Qui a pris une photo très particulière et sur un moment voilà, particulier aussi d'un renne, effectivement.
On voit un renne donc, qui est de dos avec un paysage de toundra plutôt.
Voilà, c'était en haut de la falaise de Diabazoden et c'était un renne voilà, un petit peu particulier qui méritait sa place en couverture.
C'est un cliché de vous.
Exactement, oui.
Alors si on tape Aurore Mamet via un moteur de recherche, on voit des photographies d'Aurore Mamet dans un kayak, par exemple, avec un décor exceptionnel de glacier. Et c'est là qu'on se dit, mon Dieu, j'ai une aventurière devant moi et je la présente aux auditrices et auditeurs de l'émission littéraire de Radion.
Et moi, j'ai un présentateur radio fabuleux devant moi et je lui parle.
Aurore, parlons justement de cette navigation en kayak. Alors, on est en tandem sur ces kayaks. Il faut pagayer, il y a un pédalier, alors expliquez-nous un peu à quoi sert ce pédalier. On pédale pour faire avancer le kayak, pour lui donner une certaine puissance ?
Non, pas du tout, c'est des kayaks biplaces, donc celui qui est devant n'a pas de pédale, celui qui est derrière il a une pédale pour le safran. Le safran c'est le petit gouvernail qui est derrière et qui permet d'aider à manœuvrer droite-gauche. C'est des kayaks qui sont assez longs et surtout ils sont chargés du matériel d'expédition. Ils sont très très lourds, c'est des kayaks qui ne se manient pas du tout comme les petits kayaks de rivière, beaucoup plus véloces, dont on a un petit peu plus l'habitude.
Et effectivement, lorsque la mer est assez calme, la navigation peut être paisible, vous laisse le temps d'observer le paysage autour de vous, de faire des photographies. Là aussi, il y a toute la difficulté de préserver le matériel par rapport à la salinité de la mer ou par rapport à des vagues très importantes, parce que ce n'est pas de la petite vague. À un moment, vous décrivez un épisode de la tempête, on pense que vous auriez pu, avec le kayak, vous retourner et disparaître noyé.
Et on s'est posé la question, effectivement, parce qu'on n'en voyait pas le bout. Non, quand on est à l'intérieur des fjords, l'eau est assez calme. Il y a juste un courant qui rentre et un autre qui sort, donc suivant comme on le prend. Mais dès qu'on traverse un petit peu plus au large des bras de mer, il y a beaucoup de courant. Et là, le jour dont vous parlez, effectivement, la météo était très mauvaise, mais il n'y avait pas le choix, il fallait avancer. On avait déjà pris un jour, pas de retard, mais disons un jour de marge en attendant de voir à terre si la météo s'améliorait. elle s'améliorait pas vraiment, mais là, vraiment, fallait y aller. Et effectivement, ce que je dis dans le récit, c'est que techniquement, ce sont des vacances, puisque j'ai dû poser des congés annuels à l'hôpital pour pouvoir participer à l'expédition. Mais quand on y est, ce n'est pas du tout des vacances, c'est vraiment une expédition et c'est vraiment une aventure à la fois physique, intellectuelle, même spirituelle, parce qu'il y a des moments où on se dit « ouh ». Et voilà, on craint pour sa vie, effectivement, la nature nous le rappelle.
En tout cas, de nombreux jours sans eau chaude, sans douche, sans électricité, sans ordinateur, sans lit, sans mur autour de soi. Et pourtant, Aurore Mamet, de manière exclamative, vous écrivez « Quel bonheur !»
Ah oui, quel bonheur! Le bonheur, ça tient pas à la technologie, ça tient pas à tout ce qu'on possède. On est content d'avoir un toit, on est content d'avoir de la nourriture, mais de participer à des expéditions comme ça, ça nous ramène vraiment aux choses essentielles de la vie. C'est-à-dire, j'ai un abri pour dormir, j'ai à manger pour ce soir. Et puis le bonus, c'est les paysages qu'il y a autour. Moi, l'eau chaude, ça m'a jamais manqué, l'électricité, ça manque pas non plus. Un tout petit peu pour les batteries des appareils photo, parce que c'est vraiment un problème quand il fait froid. Il faut vraiment prévoir, en emmener, on les met dans nos chaussettes, dans le sac de couchage, pour pas qu'elles se déchargent trop vite. Mais sorti de ça, non, ça me manque pas du tout.
Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? En tout cas, pour Aurore Mamet, le bonheur, c'est entre autres au Spitzberg. Pour nous, le bonheur, c'est de l'avoir ce soir devant notre micro. Je rappelle que vous pouvez prolonger l'émission en vous procurant le récit de voyage, un récit d'aventure de Aurore Mamet. C'est le parallèle de l'ours. Disponible aux éditions Coxigru. On peut commander le livre chez son libraire, mais on peut aussi se le procurer via le site internet des éditions Coxigru. Coxigru, attention, s'orthographie C-O-X-I-G-R-U-E. Très bonne soirée sur Radion, restez bien avec nous. Nouvelle intermède musical et nous revenons bien sûr pour la suite de notre expédition sur les terres polaires grâce à notre invité Aurore Mamet.
J'avais envie que la vie m'étonne, insoumis j'attendais qu'elle me frôle. Je me saoulais d'envie d'elle et je nous voyais libre et léger. Elle et moi c'était un jeu de rôle, quand elle s'accrochait à mon épaule. J'étais pendu à son bras et je nous voyais loin.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
60% du Spitzberg est recouvert en permanence par les glaces et le sol ne dégèle en été que sur une soixantaine de centimètres. Il n'y a plus d'heure dans ce royaume du jour permanent, c'est le pays de l'éternel hiver. Et notre exploratrice Aurore Mamet, exploratrice des terres polaires perdues au milieu de l'océan glacial arctique, et ce soir, rassurez-vous, à l'abri sur les moelleuses banquettes de notre wagon-livre Aurore Mamet, qui signe aux éditions Coxigrue le parallèle de l'ours. Eh bien Aurore, je vais peut-être vous demander de nous lire un extrait de ce parallèle de l'ours, s'il vous plaît.
Et volontiers. Alors le passage que je vais lire se situe en kayak lorsque nous arrivons devant le front d'un glacier. Devant le front du glacier, nous stoppons le kayak et posons les pagaies en travers. Il règne un paisible silence et l'écho sonne comme dans une cathédrale. Cette falaise de glace est aussi torturée que le glacier de ce matin. Chaque faille raconte une histoire, une avancée, un chamboulement, un heurt. Nos regards s'élèvent vers cette mosaïque de blanc, de bleu, de gris. Des veines sombres strient certaines zones comme dans une tranche de morbier. Le temps couvert donne de beaux reflets bleus profonds à la glace. Je dégaine mon appareil photo, subjugué. Jérémy, mon compagnon de kayak, s'efforce de garder le bateau dans l'axe sans projeter trop d'eau avec sa pagaie. Après de longues minutes, nous inversons les rôles. « Magnifique !» murmure-t-il entre deux clics. Un grondement se fait entendre sur notre gauche. Le glacier crie. À peine le temps de tourner la tête, nous voyons un pan de glace vertical craquer comme un coup de foudre et, presque au ralenti, se détacher pour sombrer dans l'eau, dans une dernière gerbe majestueuse. C'est un beau spectacle, mais c'est le glacier qui meurt. Dans le silence revenu, plus grave qu'avant, nous tanguons vivement sur la vague engendrée par cette formidable chute. Nous comprenions mieux les mises en garde de Marcus sur les risques de chavirement. Cette nature colossale se respecte et demande une certaine politesse. Nous ne nous approcherons pas davantage, pagayant émerveillé parallèlement au glacier. Marcus agite un bras pour attirer notre attention sans faire de bruit. Paul et Loli, plus à droite, ont repéré un phoque allongé sur un iceberg à quelques dizaines de mètres. Il lève un museau curieux vers nous, repose la tête, la relève dans notre direction. Je brûle d'envie de m'approcher comme le font mes deux compères, mais rapidement le phoque se laisse glisser dans l'eau.
Un extrait du parallèle de l'ours lu par son auteur, Aurore Mamet, qui est ce soir devant notre micro. Aurore Mamet, il n'y aura plus de banquise au Spitzberg d'ici 2050 ?
Oui, malheureusement, c'est les projections scientifiques qui sont admises pour l'heure. On espère que ça change. Mais c'est très triste parce que c'est tout un écosystème qui est lié à la présence de la banquise l'hiver, à son retrait progressif au printemps. Et déjà, cette banquise qui recule beaucoup plus précipitamment qu'avant engendre beaucoup de problèmes, notamment vis-à-vis des ours. Les ours mâles sortent de leur hibernation et suivent la banquise, et les ours femelles, qui sont flanquées de un ou deux petits, ne peuvent pas suivre le retrait de cette banquise. Donc la banquise remonte, les phoques remontent, et elles se retrouvent coincées dans ce qui nous semble froid, mais en fait pour elles c'est un climat un peu trop doux et qui compte pas assez de proies. Et c'est pour ça qu'il y a une recrudescence des attaques d'ours, soit vers les gens, soit même autour de Longyearbyen, il y a plus d'ours qui rôdent maintenant qu'il y a 50 ans, par exemple.
Formidable animal emblématique que l'ours, dont l'invisible présence plane en fait toujours au-dessus de vous lors de cette expédition. Et justement, Aurore Mamet, j'apprécierais beaucoup que vous lisiez un passage très révélateur et tout à fait passionnant.
Alors nous sommes partis en kayak et nous revenons en fait sur un camp que nous avions abandonné depuis 2 ou 3 jours. C'est Marcus qui a repéré le premier une tache de couleur jurant sur le gris uniforme de la moraine. Paul et Tatiana étaient en train de nous raconter leur périple au Perito Moreno, en Patagonie. Installés dans l'effort de la navigation, nous marchions avec eux dans les glaciers de l'hémisphère sud quand Marcus s'est brusquement immobilisé en s'exclamant « Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune ?» Installé derrière Jérémy, mon compagnon de kayak pour le retour, je me suis penchée à droite et à gauche pour tenter de voir par-dessus les épaules de mon coéquipier. J'ai surtout vu une tache bleue à faible distance du rivage, de forme artificielle, qui semblait de guingois entre les cailloux. Bizarre. Nous avons, sans un mot, mis un coup de turbo, même s'il n'y avait plus rien à faire. Notre pressentiment à tous avait des poils blancs, un nez allongé, deux yeux noirs, brillants d'intelligence et un solide appétit. Marcus nous fait arrêter les kayaks à la perpendiculaire du rivage, à distance du bord, le temps de scruter attentivement les alentours. Maintenant, nous attendons, guettant les cachettes possibles. Les épaules de notre guide se détendent légèrement, puis il donne le signal pour accoster. Il faut un peu de vitesse pour faire grimper le kayak au maximum sur le rivage, sinon on descend dans l'eau jusqu'au-dessus des bottes et le kayak dérive le temps qu'on le tracte à la main. Jérémy et moi mettons donc toute la gomme dans ce 20 mètres sans haie, départ arrêté. Mes pieds seront saufs pour cette fois, je fais claquer ma jupe pour quitter prestement le kayak, rejoignant Marcus qui a sorti son fusil de l'étui. Le spectacle nous laisse sans voix, le camp est dévasté. C'est bien un ours qui a rendu visite au lieu en notre absence. La toile de la tente écroulée est éventrée, les vivres éparpillés aux quatre coins de la moraine, boîtes éventrées, sachets pulvérisés. Dire que j'ai failli y laisser mes cartes mémoire. Le truc jaune de Marcus est une bâche de marin étalée sur les pierres. Ma tache bleue était une boîte étanche en plastique contenant les 4 heures, sucre, café, thé, lait en poudre. Une fois certain que l'ours est filé, nous nous attelons à remettre le camp en ordre. D'abord, nous sécurisons les kayaks avant de commencer à tout rassembler pour entamer le tri. Un tas d'intacts, un tas de réparables, un tas d'irrécupérables. La pluie ne nous aide pas. Je regarde une poignée de sucre fondre au pied d'une fleur qui n'en a sans doute guère besoin. C'est peut-être mon imagination, mais tout en haut du camp, vers le torrent où nous puisons l'eau, il me semble nettement sentir une odeur fauve. La main sur mon stylo à pétard, je promène mon regard sur nos affaires en contrebas, fascinée à l'idée qu'un ours soit réellement tenu ici quelques heures plus tôt. C'est le fantôme qui plane au-dessus de nos têtes depuis notre arrivée, qui soudain s'est matérialisé et a disparu avant que nous le saisissions du regard. Bien sûr, j'aurais voulu le voir, et bien sûr, je suis soulagée de ne pas l'avoir vu. Je pense aux deux ours blancs du zoo de Mulhouse, dont j'ai tiré le portrait l'été dernier. Pas sûr que leurs collègues sauvages prennent la pose de si bonne grâce, lui qui doit gagner sa pitance par ses propres moyens. Je me sens à la fois contente d'avoir partagé malgré moi des ressources avec lui en attendant le prochain phoque, et dépitée qu'un animal sauvage se soit nourri de nos denrées industrielles raffinées et artificielles.
Merci Aurore Mamet, un extrait du Parallèle de l'ours, le récit de voyage de notre invité aux éditions Coxigru. On se retrouve dans une poignée de minutes, on marque un nouvel intermède musical et nous nous retrouvons dans un petit instant avec notre invité.
People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me better. You love, love, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me. You, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now, in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you love, love, love me. Love me better. been people that I've loved before, but they were something lesser, cause you love, love, love me, love me better. But truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Someone else, someone lesser than you. Love, love, love me better.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le parallèle de l'ours, c'est le titre du récit de voyage de notre invité Aurore Mamet, disponible aux éditions Coxigru, le récit d'une expédition polaire au Spitsberg, île principale du Svalbard, un territoire sous gouvernance de la Norvège. Aurore, nous avons bien entendu, avant la pause musicale, cet extrait concernant le camp dévasté par l'ours, hein, qui s'est invité et qui, heureusement, est venu au camp au moment où vous n'étiez pas là. Mais on voit quand même que cet animal n'a rien à voir avec la gentillesse du renne un peu benoît et naïf.
L'un est une proie et l'autre est un prédateur.
Bon, on voit quelques renards. Alors, l'hiver, le pelage est complètement blanc. C'est là qu'ils attirent les appétits des trappeurs.
Oui, c'est un peu comme chez nous l'hermine. Le pelage est brun-gris en été, couleur de pierre, pour se fondre dans le paysage. Et l'hiver, donc sous la neige, sous la glace, il devient blanc. Et c'est à ce moment-là qu'on les chasse et qu'on les tue pour en faire des manteaux. Alors, au Spitsberg, très très peu. On a vu un piège, mais voilà, un seul. Et par contre, au Groenland, oui, beaucoup plus.
Aurore Mamet, vous êtes, on pourrait dire, un défenseur de la cause animale. La chasse, la traque d'un animal, c'est quelque chose qui vous scandalise, qui vous rebute, qui vous heurte.
Si c'est dans un cadre de survie, si c'est pour manger, si c'est pour... ça me semble complètement normal. On utilise les ressources qu'on a dans son environnement. Après, effectivement, sur la chasse, j'ai un petit passage sur les chasseurs qui m'agacent souvent. Je ne comprends pas, enfin disons, c'est pas dans mes valeurs qu'un loisir ou qu'un sport, qu'une activité soit de tuer. Moi, je travaille à l'hôpital. 8 heures par jour, tous les jours, mon boulot, c'est de prendre en charge la souffrance des gens, de prendre en charge leur douleur, de prendre en charge leur mal-être, de les empêcher de mourir quand c'est possible ou quand... voilà. Et je ne peux pas basculer un interrupteur et me dire « Ah bah oui, bah dimanche, prendre un fusil, aller tuer des animaux dans les bois. » Ou voilà, on parle de la chasse parce que on en a pas mal chez nous. Dieu merci, il n'y a pas que des mauvais chasseurs et des mauvais gestionnaires, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on voit malheureusement dans les abattoirs en ce moment, les animaux qui sont abattus n'importe comment, transportés n'importe comment, ça touche à plein de choses. C'est un non-respect de la vie en général qui n'est pas dans mes valeurs, effectivement.
On sent bien que vous êtes scandalisé, notamment lorsque votre guide Marcus vous explique que les morses ont quasiment été exterminés autour du Spitsberg.
Oui, c'était une autre époque. C'était l'époque des grands trappeurs. On ramenait les baleines, on ramenait les morses, on ramenait beaucoup de graisse pour faire alimenter les lampadaires de Paris. On avait une vision très à court terme, c'est-à-dire que si nous, on ne tuait pas les morses, d'autres s'en chargeraient et feraient du profit avec. J'espère que l'humanité va aller vers une gestion plus durable de l'environnement et mieux préserver les ressources, que, voilà, que ce soit en chasse, en élevage, en tous les domaines qui touchent en fait à l'environnement.
En tout cas, vous observez les animaux, vous avez tendance un peu parfois à faire un peu d'anthropomorphisme, à humaniser les animaux. Vous écrivez, c'est page 132, c'est au cours du 8e jour de l'expédition. « Je n'ai jamais compris cette obstination humaine à se démarquer du reste du règne animal. Ils ont un cœur qui bat, comme moi, un système nerveux, comme moi, une vie sociale, des petits à éduquer, des besoins, des envies, des buts à atteindre, comme moi. »
Oui, je pense que fondamentalement, l'homme est un animal parmi les autres. On accorde beaucoup d'importance à notre espèce parce que c'est notre espèce à nous. Je pense que si on posait la question à je sais pas, un hibou, il trouverait que les hiboux sont très très importants dans l'environnement. Et c'est vrai qu'on a un potentiel de jugement et de destruction sur les autres espèces que n'ont pas forcément d'autres espèces animales vis-à-vis de celles qui les entourent. Et quand je dis ça, effectivement, moi ce que je vois, c'est qu'on est un mammifère, et ce que je vois autour de moi, c'est des mammifères aussi. Je pense qu'il y a une partie de leur pensée qui nous échappe, ou qu'on n'est pas capable de comprendre, mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'existe pas.
Il m'a semblé, Aurore, que les rennes du Spitzberg étaient particulièrement curieux à l'égard des expéditeurs.
Alors c'est tout l'attrait du Spitzberg, c'est effectivement, comme il y a très peu de chasse, les animaux ont des distances de fuite très réduites par rapport à d'autres contrées polaires. Et effectivement, les jeunes de l'année, on les intrigue assez vite. Ils ne sont pas très très peureux, ils viennent voir. Et les adultes qui comptent déjà plusieurs hivers, voilà, on les dérange un petit peu, mais ils nous suivent. On a déjà fait des randos où on se faisait suivre par un troupeau de rennes qui nous trouvait finalement très sympathiques. Et voilà, on fait partie du groupe.
J'ai relevé un très joli alexandrin sous votre plume. Phoque de midi, reine de minuit, merci. Très joli.
Merci. Merci à la nature polaire. Ça fait du bien de voir qu'il existe encore de la nature. Alors on peut difficilement dire intacte puisqu'elle peut être contaminée par une pollution invisible au niveau de l'eau, au niveau de l'air. Mais disons visuellement, des paysages qui ne sont pas façonnés par l'homme, des animaux qui ne sont ni élevés ni gérés entre guillemets par l'homme. Et on se rend compte que nous aussi, on a cette part de liberté en nous.
Aurore, vous dégainez bien sûr l'appareil photo souvent pour immortaliser une scène, un paysage, un animal. Parlez-nous de ce mini pistolet à pétard à fumée que vous aviez autour du cou.
Alors ça fait partie des mesures de protection contre les ours qui sont obligatoires et qui sont permanentes. Alors chaque personne a autour du cou, de jour comme de nuit, ça ressemble à un gros stylo orange fluo, ça contient deux pétards qui envoient des fusées, je crois que c'est 15 mètres, qui font énormément de bruit, un tout petit peu de fumée, et qu'on doit avoir voilà, en permanence. Ça se déverrouille tout de suite, c'est la première protection. Ensuite, dès qu'on s'éloigne du camp, on a un gros pistolet, on dirait un énorme pistolet de cow-boy, qui lui lance des fusées éclairantes et qui produisent beaucoup de décibels à 40-50 mètres. Et ensuite, un seul fusil par groupe, pour des raisons de sécurité, il n'y a que le guide qui a le droit de le prendre. Où là, il y a des balles, il y a trois types de balles. Il y a des balles avec des petites billes en plastique et des balles réelles, des balles qui font du bruit. Et en fait, il y a des consignes très très strictes. Si l'ours est entre telle et telle distance, il faut tirer une balle à fumée devant lui. S'il s'est rapproché, il faut tirer une balle avec des billes en plastique en direction de son arrière-train. Et en dernier recours, mais c'est vraiment quand il est à 25 mètres, c'est-à-dire quand il est à 2 secondes de vous, une balle réelle en visant la tête. Les mesures de protection contre les ours, c'est vraiment pour protéger les gens et pour protéger les ours. On tire vraiment pour tuer en dernier recours, et dans les faits, ça arrive très rarement.
Concernant l'ours, et toujours pour souligner l'aspect gigantesque, imposant et emblématique, hein, vous le rappelez, animal emblématique des terres polaires, c'est que vous expliquez à un moment, vous découvrez avec Marcus et vos compagnons une empreinte d'ours c'est dans la toundra, enfin ça ressemble, dites un
gros. Dans une plaque de neige, oui.
Une plaque de neige. Et finalement, vous ne voyez pas les autres empreintes. Et finalement, un ours qui court, la distance entre les pattes avant et la patte arrière, enfin le 4 mètres
4
de long.
4 mètres, oui, c'est impressionnant. Là, on est resté très intrigués. C'était une plaque de neige qui avait en partie fondu, qui avait durci. Il y avait une patte d'ours au début et ensuite plus rien. Et on se dit, mais c'est pas envolé. Et le guide nous a dit, bah non, mais c'est juste qu'il courait. Et après, voilà, on peut imaginer par rapport à la foulée d'un cheval, la foulée d'un ours. Et là, c'est très impressionnant parce qu'on se dit, en fait, au niveau des distances de sécurité, on pense qu'il est loin, mais en fait, il est tout près.
Et donc finalement, vous étiez bien sur un territoire qui appartenait à d'autres que vous. On marque une dernière pause musicale et on se retrouve juste après avec notre invité ce soir dans Wagon Livre sur Radion. C'est Aurore Mamet qui signe aux éditions Coxygru Le parallèle de l'ours.
On voit tout.
Sa tête rentrée, resserrée dans tes épaules. Là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. Ces mêmes traits d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. Jamais su danser, jamais tu laisses aller.
On voit tout.
La tête renversée.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le parallèle de l'ours, c'est le titre du récit de voyage d'Aurore Mamet. Aurore, il nous reste quelques minutes pour conclure. Tout d'abord, il faut un petit mot sur Alcornet. Alcornet, c'est un paradis pour oiseaux. Alors là, ils sont là, mais à profusion.
Exactement. Alcornet, c'est une falaise en corniche qui est à l'extrémité d'un cap, au Spitzberg, et qui est donc dans une zone classée réserve naturelle. Et il y a tout. Il y a des falaises pour que les oiseaux nichent. Il y a un petit peu de nourriture au sol. Il y a des cours d'eau douce. Il y a l'océan. Et effectivement, là, c'est les oiseaux partout, tout le temps. Il y a une odeur très particulière que je vous laisse imaginer et il y a surtout énormément de bruit.
Celle du guano, entre autres.
Voilà, exactement.
des pétrels, des éders, des goélands, les sternes un peu agressifs parfois, les sternes.
Oui, dans le livre, j'en parle un peu comme, pour donner une image, le film Les oiseaux d'Hitchcock. C'est exactement ça, c'est des oiseaux qui sont très territoriaux et qui nichent au sol, donc dans les cailloux, on a du mal à voir les nids. Et par contre, dès qu'on s'approche, les parents volent, ils font énormément de bruit pour nous faire partir et on ne sait pas dans quelle direction partir parce qu'on ne sait pas où est le nid. Et ils attaquent en piqué sur le crâne et à Longyearbyen même, il y a des panneaux pour dire de faire très attention. Ça déchire le cuir chevelu, vraiment, ça peut être très très grave.
Et puis épisode très original où je crois que c'est un bécasso violet adulte qui simule la blessure, il fait semblant d'être blessé pour que les prédateurs s'attaquent à lui plutôt qu'au nid de ses petits.
Oui, c'est pas la seule espèce à faire ça, mais effectivement c'est très impressionnant, c'est la première fois que je voyais en vrai, on se dit oh là là, le pauvre, il a l'aile blessée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait non, dès qu'on s'est éloigné de son nid, il s'envole. Il faut comprendre qu'au Spitzberg, il n'y a pas d'arbres. Donc les nids des oiseaux, ils sont au sol, entre deux mottes de terre gelée, de toundra, dans les cailloux, et ils sont très difficiles à repérer. Donc en fait, quand on marche, on fait très attention là où on marche, pour pas s'approcher trop près.
Une mention particulière pour ces oiseaux clowns que sont les macareux, si jolis que tout le monde connaît. Aurore, nous sommes sur l'extrême fin de l'émission. Vous avez une âme de voyageuse. Vous ne vous êtes pas rendue qu'au Spitzberg. Vous aviez fait, avant ces expéditions polaires, d'autres voyages en Afrique du Nord, en Afrique noire, en Afrique du Sud, Amérique du Nord avec le Canada, l'Islande. Pourquoi le Spitzberg a-t-il donné naissance à un livre dont nous avons amplement parlé ce soir, intitulé « Le parallèle de l'ours » aux éditions Coxygru?
C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, et tous les pays sont intéressants, chaque terre a quelque chose à nous apprendre. Le Spitzberg, c'est un monde à part. Je pense qu'il faut vraiment, c'est ce que j'essaie de faire passer dans le livre, mais je pense qu'il faut vraiment s'y rendre pour comprendre cet effet gigantesque que ça fait. Cette terre vraiment inhabitée, sauvage, avec des conditions très difficiles, ça demande un engagement, on ne peut pas y aller en dilettante. Et comme on s'engage énormément, c'est une terre qui prend de l'importance pour nous. Et en même temps, c'est tellement immense, c'est tellement colossal, c'est tellement rude, et en même temps, c'est si fragile. Quand on y est, la fonte des glaciers, le fait que on a rencontré des scientifiques qui nous expliquaient que dans le foie des ours, il y avait des concentrations en PCB, en métaux lourds, enfin, on a envie de pleurer. Quelque chose d'aussi magnifique qui est souillé par nous. Et quand on rentre, on n'a qu'une envie, c'est faire passer le message et dire aux gens, aux industriels, enfin à tout le monde, de dire mais faites attention parce que nos actions qu'on a ici, chez nous, en France, elles ont des répercussions énormes sur les écosystèmes polaires. Et vraiment, le message que je voulais faire passer par ce livre, c'est il faut inverser la vapeur. Il faut faire attention, il faut faire attention aux autres. Et juste pour conclure ce que je dis à la fin du livre, un petit dicton, alors je ne sais plus qui l'a dit, il me semble que c'est un explorateur polaire du 19e siècle, mais je n'ai plus le nom, qui a dit « Ce que la glace prend, elle le garde. Moi, elle m'a pris, elle m'a gardé. C'est sûr, je vais y retourner. »
N'hésitez pas à retrouver le récit de ce voyage engagé à travers le parallèle de l'ours sous la plume d'Aurore Mamet qui était ce soir devant le micro de Wagon Livre aux éditions Coxygru, pardon. Soit on le commande auprès de son libraire, soit on se rend sur le site des éditions Coxygru, Coxygrue. Merci Aurore d'avoir passé cette soirée avec nous, c'était un grand plaisir non seulement de vous avoir lu mais aussi de vous entendre nous raconter cette expédition en terre polaire au milieu donc de l'océan glacial arctique. Merci Aurore.
Merci Yannick et puis merci pour votre émission Wagon Livre qui est toujours bien menée et toujours formidable à écouter.
Merci, merci également à celles et ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous mercredi prochain, toujours à 21h sur Radion 90.5 dans le département de Lyon ou alors en direct via radion.fr aux quatre coins de la Bourgogne, de France ou du monde. Je rappelle que cette émission se retrouve d'ici quelques heures en ligne sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.